Podcast.
C'est pour ça que je fais du marketing aujourd'hui, tu vois. C'est le comment tu peux créer le lien entre la marque qui est profondément inhumaine en tant que telle, tu vois, et l'humain, quoi. Et comment tu peux articuler le discours et ouais, en faire quelque chose de chaleureux. Comment tu peux insuffler la vie en fait à la marque.
C'est le truc que je trouve compliqué avec les entreprises. Les entreprises sont faites, donc une seule mission, c'est de survivre aux humains. Les entreprises sont faites pour être inhumaines, proprement inhumaines. Ce sont des constructions humaines dans le sens qu'elles sont faites d'humains et qu'elles ont été imaginées par les humains, mais qui sont faites pour dépasser l'humain. Et où la préservation de l'entreprise en tant que technostructure est plus importante que la préservation de chaque individu qui la constitue. Et donc, comment tu fais pour que l'entreprise ne bouffe pas ses humains ?
Vraie question.
Comment tu fais pour que les produits et les services conçus par ces entreprises ne bouffent pas les clients ? Le marketing aujourd'hui, malheureusement, en très grande majorité, ne répond pas à ces questions. Ou en tout cas, il répond mal, il répond de la manière inversée.
Ouais.
Et le bon marketing, c'est le marketing qui, justement, est, quelque part, protège l'entreprise
ouais,
d'elle-même.
Tout à fait. C'est un garde-fou, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais.
Et quand les marketeurs sont capables de le faire... Et il y en a.
Ça existe.
Il y a des bonnes entreprises qui font de bons produits et c'est merveilleux. C'est proprement merveilleux parce que tu vois alors la puissance de cette construction. Tu vois, d'abord tu vois toute l'ingéniosité de l'esprit humain parce que
c'est ça. Tu vois pas juste la puissance, mais la beauté oui. Surtout, je pense. D'abord.
Tu vois comment on a été capable de créer les conditions de notre propre obsolescence. Et c'est comment on gère notre mortalité. Comment ce truc. Ce monstre, ce Léviathan, pour reprendre Hobbes, qui est conçu pour nous broyer, qui est conçu pour nous dépasser, quand il est utilisé de manière très précautionneuse, tu sais, comme une pince à épiler pour poser un brin de safran sur un plat. Quoi. Comment, quand c'est fait comme ça, tu le disais très bien, c'est proprement beau. Et les produits que tu reçois ou les services que tu obtiens, non seulement ont une utilité intrinsèque, mais en plus ils sont infusés par tout ça. La beauté de certaines montres suisses, qui non seulement sont des beaux objets, mais en plus viennent avec, et puis fonctionnels, mais viennent avec l'héritage de centaines d'années. Enfin, quand tu touches le produit, tu sens toutes les autres mains qui l'ont touché pendant sa fabrication, et tu fais... il y a un côté très satisfaisant.
Très satisfaisant, je suis d'accord, ouais. Et c'est le... Je pense que Veil en a parlé quelque part, mais sentir comme ça, à ce point, l'attention qui a été portée au produit, c'est une connexion directe à l'humain et aux humains qui l'ont faite, et une connexion faite d'amour, en fait. Et de... Enfin, il y a une passerelle très, très, très concrète qui se crée, quoi. Et qui...
Et il n'y a pas besoin que ce soit cher.
Non, c'est vrai.
Une bonne baguette... Une bonne baguette bien faite. Mmh.
Ça, j'ai envie de pas maintenant.
Il y a un côté... et tu te dis... Plus le temps passe, plus je vieillis, plus j'essaye de trouver... plus j'essaye de faire en sorte que j'ai ces expériences dans mon quotidien. Tu vois, que je sois confronté à des moments où, à travers des objets, à travers des contenus, si on parle d'un livre, si on parle de musique... dont on va parler dans les minutes qui viennent, je ressens l'amour des autres, justement, l'attention des autres. Et c'est pas seulement... Enfin, c'est pas nombriliste, quoi. C'est pas seulement « Ah, j'écoute de la musique parce que j'ai envie d'écouter la musique. » C'est moi. C'est j'écoute de la musique parce que, certes, ça me fait du bien et j'ai envie d'écouter la musique, mais aussi parce que ça dit quelque chose, mais aussi parce que ça me transmet quelque chose de l'autre, mais aussi parce que je sens ce que l'autre... Et la même chose quand tu achètes une bonne baguette de pain, tu bois un bon café, tu as commandé le système d'étagère de tes rêves et que le service client est génial parce qu'il a tout réglé au millimètre près et il n'a pas essayé de te survendre quelque chose. Au contraire, il a enlevé des choses de ta commande parce qu'il pense qu'à la fin, le résultat est plus balancé et plus joli. Et c'est juste... Ah.
En fait, là, une des beautés de ça aussi, il y en a beaucoup, hein, mais je pense que c'est non seulement une chaîne de transmission où tu récoltes, donc t'es comme un entonnoir un peu, tu récoltes toi quelque chose de substantifique qui fait que la somme, tu vois, est plus grande que, enfin, le tout est plus grand que la somme des parties, et tu récoltes ce fruit là, ce qui est déjà quelque chose de presque ineffable, hein. Mais la beauté de ça encore plus, c'est que tu deviens, dans un sens, partie intégrante de cette chaîne. Et que tu es du coup intégré à cet effort commun, tu es ce nain juché sur les épaules des géants. Et ça. Enfin, en fait, c'est la vie, quoi, c'est ça la vie. Y a rien de plus beau, je pense, parce que bah, c'est exactement le sens de la vie, c'est ça, c'est que. Enfin, qu'est-ce qui fait d'un être humain, d'un être. Ce que c'est, enfin, qu'est-ce que c'est que l'être humain? C'est ça, c'est cette continuité et cette amélioration, quoi.
Et si on parle de la vie, chers auditeurs et chères auditrices, c'est parce qu'on a enregistré cet épisode à l'envers. Donc on vient parler de la mort. Vous entendrez ça dans une demi-heure. Et j'espère aussi que vous savez qu'on vous aime, hein, et qu'on fait ça, qu'on enregistre ce podcast non seulement pour nous, mais enfin aussi un peu pour vous.
Voilà, donc on est désolé que pour la dépression qui va suivre, parce que le prochain sujet est vraiment pas fun du tout.
Regardez donc.
Alors, moi j'ai regardé peu de choses ces 2 dernières semaines, donc ça va être très succinct. J'en suis sur la assez, enfin, on est à la saison 9 de The Office, donc la dernière saison. Et c'est bien que ce soit la dernière saison quand même, parce que. Non, c'est quand même très bien, il n'y a pas de problème, on s'amuse beaucoup, mais plus ça va, plus. On voit que c'est usé, que les ficelles se voient de plus en plus, les arcs prennent des tournures un peu étranges, et c'est très artificiel. Là où c'était amené de manière vraiment organique auparavant, on sent qu'il n'y a plus vraiment le même soin qui est apporté aux arcs des personnages et que ça se boucle au fur et à mesure comme ça. C'est effectivement. Les 2 dernières saisons sont effectivement une série à part quasiment. C'est très différent du reste avec Carell. Mais ça reste plaisant. Je pense que je suis très content d'avoir vu cette série globalement. C'est, à mon avis, quand même, il y a une. Enfin, c'est un classique, quoi. Je sais que je suis très révolutionnaire en disant ça. Mais je pense qu'on est en face d'un classique culturel, enfin, manifeste, quoi. C'est quelque chose qui devrait. Enfin, qui sera utilisé dans le futur pour illustrer sa propre catégorie de comédie, quoi.
Ouais. C'est marrant ce que tu disais sur le côté usé, presque usant, j'ai envie de dire, parce que
C'est
ça
vrai.
marche aussi dans ce sens-là. J'ai vu la dernière saison de Bob's Burger, qui est une série animée que j'adore. Mais tu vois, ça me fait un peu le même effet. Et j'ai un peu peur que ça finisse comme les Simpsons, c'est-à-dire que ça finisse jamais, que ça n'en finisse plus. Et que chaque année, on remette 10 ou 15 épisodes, et que chaque année, on se sente obligé de. Nah. Il manque la satisfaction de la fin, quelque part. Il manque la satisfaction d'une résolution.
C'est intéressant, ça, cela dit. Enfin, je fais une parenthèse qui a presque rien à voir, mais un peu quand même. Je lisais enfin, d'un œil distrait un article sur Jeff Bezos qui va essayer de lui aussi ne pas mourir. Et je me demande dans quelle mesure les Simpsons et Jeff Bezos n'ont pas un but commun. Ainsi que le mec qui a fait Calico, là.
Oui,
Ouais.
ouais. J'aurais peur de m'ennuyer. Tout ce que j'ai à dire. J'ai aussi regardé, c'était beaucoup moins ennuyant, le dernier Wes Anderson de French
Pas
Dispatch.
encore vu, il faut que je voie.
Ouais, bah un jour il fera un mauvais film, un jour. C'est pas encore arrivé, un jour. J'en suis certain, mais pas encore. C'était très bien, c'est très bien. Notamment, ce que je trouve complètement absurde, c'est qu'il a filmé la quasi-totalité du film à la fois en noir et blanc et en couleur. Parce que pourquoi pas? Évidemment, il filme toujours sur pellicule, hein, puisqu'il est toujours pas passé au numérique et il passera probablement jamais au numérique. Donc ça coûte un fric fou, mais évidemment, ça prend tout son sens quand on regarde le film et le film, en fait, les films, parce que c'est un film à tiroir avec plusieurs films à l'intérieur. C'est incroyable. Et beaucoup plus incroyable qu'un film devant lequel je me suis un peu ennuyé, qui était The Courier avec Benedict Cumberbatch, avec Sherlock Holmes, qui est un formidable acteur, incroyable, hein, qui est capable de changer sa voix, son corps, sa démarche. Enfin, c'est de la glaise, quoi, cet acteur. C'est incroyable. Mais je sais pas, je me suis ennuyé. Donc c'est cette histoire-là de cet espion, le grand espion russe recruté par les Anglais, enfin les Britanniques, par l'intermédiaire de la CIA, qui était Oleg Penkovsky. Et son passeur d'infos, c'était un commerçant, un commercial même anglais, Greville Wynne. Et je connaissais l'histoire, mais je pense pas que c'est parce que je connaissais l'histoire que je me suis ennuyé. Il y a un côté. Le talent de Cumberbatch est presque écrasant. C'est assez amusant comme, de le dire comme ça, mais il y a un peu de ça.
C'est intéressant que tu dis ça comme ça parce que c'est très comme comment il s'appelle le mec là qui fait Iron Man?
Denis Junior.
Merci. Il y a un peu ce même phénomène, j'ai l'impression. En tout cas dans les Marvel où intervient Cumberbatch. Alors évidemment Marvel n'est pas c'est pas des vrais films, mais peu importe. pardon, pardon à ceux qui nous écoutent et qui aiment bien les Marvel. En vrai j'aime bien les Marvel, je les regarderai tous évidemment, mais bon c'est pas des vrais films. Et c'est tu sens que on n'est pas loin du cabotinage quand même, pas très loin.
Ouais, dans le cas de Robert Downey Jr., clairement, où il y a un côté, il me donne l'impression de se moquer de sa propre performance, mais sauf que les caméras continuent à tourner, quoi. Donc, et là, c'est pareil, tu as, c'est assez étrange comme manière de le voir, mais notamment, enfin, sans rien révéler de l'histoire, il y a une scène où il est en prison, il est émacié, et je peux pas spoiler puisque c'est de l'histoire, mais tu ne vois rien d'autre que l'acteur dans ces scènes-là. Et ça te sort complètement du truc. C'est formidable. C'est magique. Mais parfois, j'ai pas envie d'être critique devant un film. J'ai juste envie d'être spectateur, quoi. C'est.
Ah, c'est intéressant. Donc la technique qui te sort du la technique tellement parfaite, la technique tellement parfaite qu'elle te sort du de l'illusion.
Bah, tu t'arrêtes devant l'art, quoi. Mais il y a des tableaux qui me font ça aussi, hein, où j'aime bien regarder les tableaux de côté et. Il y a des tableaux que je regarde pour l'épaisseur de la peinture ou pour la manière dont dont le pinceau a été posé, quoi. Et tu te dis, oui, mais enfin, Anthony, là, ce serait quand même bien en fait, de te mettre en face du tableau et de reculer de 3 mètres et juste de laisser le tableau faire, quoi. Écoutez!
Écoutez, j'ai écouté deux albums ces 15 derniers jours. Le premier de First Aid Kit qui s'appelle Who by Fire 2. Live Tribute to Leonard Cohen. Leonard Cohen. Ah, j'aime beaucoup First Aid Kit. J'écoute pas mal ce qu'elles font. Enfin, c'est à chaque album, il y a des morceaux qui me plaisent énormément que j'écoute tout en boucle. Que j'use un peu jusqu'à la corde. Là, c'est un live, donc il y a les. Enfin, le live pardonne beaucoup moins à certains défauts, notamment la justesse. Et effectivement, il y a des petits soucis de justesse parfois, bon, rien de grave non plus. Ce que j'ai particulièrement apprécié, l'album lui-même est assez inégal, je trouve, parce qu'il y a une intention artistique derrière, donc certains textes sont déclamés, d'autres sont chantés, d'autres sont fusionnés. Donc. J'aime pas trop qu'on joue avec le matériau d'origine, tu sais que je suis assez conservateur, mais
Toi, non.
si peu, si peu. Je sais que c'est un peu un scoop, mais bon. En revanche, le grand mérite de cet album, c'est que j'ai pu redécouvrir certains textes de Cohen, notamment The Future, où j'avais pas compris qu'il parlait. Enfin, j'ai lu une interview après et en fait, il parle notamment de d'un sujet qui m'obsède un petit peu aujourd'hui, qui est la fin de la vie privée. La notion d'espace privé dans lequel on peut développer certaines idées, cultiver certains aspects de la psyché, comme il dit, et qui sentait que ça disparaissait au profit d'un certain esprit de masse. Évidemment, je pense pas qu'on puisse être totalement binaire sur la question, mais c'est un phénomène qui m'intéresse aussi beaucoup. Et je crois que la vie privée est en grand danger aujourd'hui de disparition, quoi. Donc c'était l'avantage d'écouter cet album finalement. Donc n'écoutez pas l'album, mais allez plutôt écouter Cohen. Et l'autre album que j'ai écouté, c'est celui d'un artiste qui s'appelle Farkas Pian. Je sais pas trop comment le dire avec l'accent. Ways to Get Out. Et j'utilise l'iMac comme enceinte parce que j'ai mon MacBook Pro pour travailler quand je suis en télétravail. Mais j'ai beaucoup fait de télétravail cette semaine. D'habitude, je vais toujours au bureau, mais là j'ai le Covid, donc je reste à la maison. Et hashtag reste à la maison. Et j'utilise l'iMac comme enceinte, du coup. Et pour travailler, j'aime bien mettre de la musique un peu pas très exigeante. Pas dans le sens où musique nulle, tu vois, mais plus pas musique orchestrale avec 50 000 sons qui exigent de l'attention, quoi. Et donc là, c'est une sorte de pop indé, presque shoegaze, et j'aime beaucoup, c'est mélancolique ce qu'il faut, ça va très bien à la transition entre février et mars, où les jours sont à la fois un peu plus longs, mais toujours un peu merdiques, parce qu'il pleut quand même pas mal, mais en même temps, c'est pas mal, mais en même temps, bon, ça pourrait être mieux, et puis bon, il y a l'Ukraine et tout ça, donc voilà, je sais pas, c'est bien, c'est très bien pour le moment, et je vais aller ouvrir au chat.
Mais alors, tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai écouté Adjusting de Arnaud Dolmen et c'est un album que j'ai écouté presque à cause de l'iMac. Où, pareil, j'ai un peu télétravaillé et c'est un album qui est très très percussif et où, même dans la manière de traiter les aigus, y a un côté presque plus rythmique que mélodique. C'est vraiment intéressant comme mixage. Et ça réveille les haut-parleurs de l'iMac. C'est la première fois, je crois, que j'entends l'iMac se bouger autant. Et c'est là que tu vois que ça fait un super système sonore par ailleurs, hein. C'est pas une chaîne IFI, enfin c'est pas une chaîne haute fidélité, mais enfin c'est quand même super 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 agréable. Et dans le même sens, j'écoutais un album que j'attends de pied ferme depuis très longtemps, qui était Black Radio 3 de Robert Glasper, qui est un de ses nombreux albums qui est à la frontière entre le jazz et la hip-hop, et qui là est clairement très hip-hop. Mais avec des mélodies super compliquées, enfin c'est incroyable. Et y a un côté, là c'est pas percussif quoi, c'est percutant quoi. T'as presque l'impression de te prendre des coups dans la poitrine, tellement c'est, enfin le son est épais quoi. Et pareil, quand tu es face à l'iMac qui a ce système sonore un peu compliqué, c'est assez marrant. Et en plus, t'as les textes de Glasper qui sont quand même, enfin, qui sont très très actuels et qui sont politisés mais bien faits quoi. C'est pas caricatural et
C'est pas Renault, quoi.
c'est clairement pas Renault. Hashtag conscience sociale. Dans le genre mindfuck, que je ne traduirai pas, j'ai écouté un truc que j'ai découvert dans la playlist hebdomadaire d'un designer que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon Collison, qui chaque semaine fait une petite playlist sur Apple Music où il met quelques morceaux qu'il a écoutés. Je fais pareil mais à l'échelle annuelle. Donc je mettrai le lien vers ma playlist dans la description, mais aussi la sienne quand même parce qu'elle est vachement bien.
Elle est vachement bien.
Et elle est vachement bien. Et la semaine dernière, il avait Tonkori in the Moonlight par Oki dans sa playlist. Et c'est. Attention, hein, vous trouvez que c'est compliqué quand j'écoute du jazz, mais là, vous allez voir un truc encore plus compliqué. C'est de la folk Ainu. Je vous rappelle que les Ainu, c'est le peuple original du nord du Japon, qui est mélangé avec un peu de dub. Ouais, donc on est quand même sur des trucs, on est quand même sur des bases un peu complexes, hein. Et en écoutant ça au départ, j'avais cru que c'était africain, ce qui est quand même assez étrange. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'ai eu ma période, quand j'avais 20-22 ans, où j'écoutais à la fois beaucoup de musique japonaise et aussi beaucoup de musique ouest-africaine notamment. Et il y a quelque chose dans le rythme des musiques traditionnelles, mais même les nôtres, hein, même celles d'Europe, qui... Enfin, quelque part, elles se ressemblent toutes, quoi. Mais ça doit dire quelque chose de la physicalité, quoi. Ça nous ramène à l'oreille, ça nous ramène aussi à nos bras, quoi. Taper sur des tambours, tirer sur des cordes. Enfin, c'est au bout d'un moment, on est aussi limité par le physique, quoi. Et ce que je trouve assez formidable avec cet album, enfin, si un jour on m'avait dit que j'écouterais de la folk Ainu mélangé avec du dub, c'est quand même. Mais ce que je trouve formidable, c'est que du coup, c'est pas du tout primal, quoi. C'est pas cette espèce de cliché documentaire de regarder la musique des peuples indigènes. C'est super, super travaillé, mais en même temps, ça ramène à quelque chose de très ancestral. C'est formidable. Et ouais, abonnez-vous à la playlist de Simon Collison, vraiment.
Ça vaut le coup, il y a des belles découvertes chaque semaine, ouais. Lire. Alors, pour Arnaud, ça va être assez rapide. Je parle d'Arnaud, la troisième personne, parce que pourquoi pas. Et ça va être assez rapide parce qu'il a rien lu. Ou alors rien fini. Arnaud est dans une phase de... Il sait pas trop comment occuper son temps libre. Et surtout, il est en train de rejouer avec Xenoblade Chronicles 2. Donc, c'est très compliqué de trouver du temps pour lire. Et Arnaud s'excuse. Et Arnaud vous demande de lui pardonner pour cette fois. Et peut-être qu'il ira autre chose pour le prochain podcast.
Cela dit, Arnaud m'a envoyé un article qui s'appelle Monteverdi and Jazz, qui a été publié sur Interlude, Qui est intéressant parce que autant je maîtrise assez bien les liens entre Bach et le jazz, autant je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait de vrais liens entre Monteverdi et le jazz, notamment chez Bill Evans.
Oui, l'intersection pour moi n'était pas du tout évidente. Enfin, Monteverdi, quoi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un rapprochement avec le jazz. Surtout Monteverdi qui est très. C'est un des rares, quand j'ai fait de la chorale à l'église auparavant, c'est une des rares musiques liturgiques. C'est-à-dire que polyphoniquement, en général, c'est
Ouais.
assez mal vu de faire de la
Ouais.
polyphonie à l'église pendant le rite. Et là, c'est une des rares, avec Palestrina, je crois, qui est tolérée, enfin qui est même acceptée sans problème.
Et c'est une fois qu'on te le dit, c'est évident. Il y a un côté ah oui, évidemment. Donc c'était vraiment marrant de dire ça. Donc merci pour la découverte. Mais comme toi, j'ai pas beaucoup lu parce que ces derniers jours, c'est un peu lire ou écrire, il faut choisir. Et comme je gagne ma vie en écrivant, je préfère écrire.
Ça se comprend. Ça se défend.
Hein? Bon. Acheter alors.
Grosse dépense. J'ai acheté des billets d'avion et réservé un hôtel pour New York. Parce qu'on voulait faire ça avec Adrien pour son anniversaire en 2020. Et figurez-vous que, bizarrement, c'était plus compliqué que prévu. Parce qu'il n'y avait plus d'avions, ils étaient en rupture de stock. Non, voilà, donc forcément Covid oblige, on a dû attendre un petit peu, et là ça commence à se reprofiler à l'horizon, sans doute début juin, mais voilà, un petit séjour dans la ville, dans le centre du monde, comme je l'appelle. Oh là là, ça fait tellement pédant quand ce que je viens de dire là, c'est horrible, je me dégoûte.
Je peux faire encore plus pédant. Il y aura du coup un épisode du podcast Live from New York.
T'imagines?
Ah, prendre l'avion, je crois pas que ça me manque, mais quand même.
Je vais te confier quelque chose et je crois que je te l'avais déjà avoué donc ça va, mais entre les deux confinements, je devais aller voir des amis à Nantes et l'avion était moins cher que le train et j'ai fait l'aller en avion.
Quand la révolution verte viendra, tu seras parmi les premiers pendus, d'accord?
C'était tellement agréable! C'était tellement agréable! Même le passer de la sécurité me fait plaisir, tu vois. C'est très bizarre.
Ah, ça a été pareil avec le premier TGV qu'on a pris, moi qui suis un grand voyageur en train.
Ouais, le train, c'est génial.
Le plaisir de redécouvrir, parce que j'avais presque oublié que la SNCF avait mis de l'argent pour rénover certains TGV. Mais le plaisir de redécouvrir la première en TGV Inouï, où il y a enfin de la place pour mettre un grand gaillard comme moi sur un siège. Tu fais, ah oui! Et t'as presque l'impression que il y a quelqu'un qui avait appuyé sur le bouton pause, et que là tu viens de réappuyer sur le bouton lecture. Ah, c'est reparti.
On avait dit du mal de la SNCF avec l'application qu'ils ont commise il y a 2 semaines et qui est toujours une atrocité. Et je pense que
Toujours.
c'est un crime contre l'humanité de faire ça. Mais je ne vais peut-être pas dire ce terme-là parce qu'on va lui dire beaucoup plus sérieusement après. Crime
Crime
de
de
guerre,
guerre,
oui.
même, oui.
Mais en vrai, j'ai pris un train nomade ce week-end pour aller à Cabourg. Nomade étant le réseau normand. En fait, le logo est très astucieux. Ils enlèvent le R et le M et il y a un trait qui unit le O au M et le A au D. Nomade, normand. Ouais,
Ah.
c'est très astucieux.
Tu vois ce qu'on disait sur les marketeurs en intro? Bah voilà.
Ben, eh bien, la qualité du logo est inversement proportionnelle à la qualité du train. Le train est génial. Génial. Genre, il y a tellement de place partout. C'est organisé avec des recoins, des trucs comme ça. Tu peux prendre si tu veux. Il y a des machines à café à l'intérieur. Enfin, c'est génial. Tout est génial. Il y a des prises partout, des USB partout. C'est lumineux, c'est grand. C'est super. C'est super. Franchement, bien joué pour le nomade. Bien joué.
Mais alors, tu vois, toi, tu voyages, mais moi, comme des millions de Français, qui est encore bloqué chez lui, je regarde mon appartement avec une certaine fatigue. Et donc, après avoir refait la moitié nuit de l'appartement, on vient de refaire faire la partie jour de l'appartement. Et donc, quelque part, j'ai acheté un nouvel appartement dans mon appartement actuel. Je crois que ça compte. C'est un achat suffisamment conséquent pour que je n'ai évidemment rien acheté d'autre. Et je ne compte pas acheter quoi que ce soit d'autre pendant
Tu
un certain
m'étonnes.
temps. Mais il y a un côté, quelque chose qu'on ne te dit pas quand tu achètes ton appartement, c'est que, en fait, quelque part, tu as acheté le droit de louer ton appartement et que tu ne vas cesser de le recomposer, qu'en fait, c'est l'appartement de Thésée, quoi. C'est tous les jours presque, tu changes un truc. Et tous les jours, l'appartement devient subtilement différent. Et là, j'aimerais bien qu'on arrête parce que je n'arrive à voir mon appartement que comme une succession de factures. Et quand tu renverses quelque chose, tu fais, ah, ça coûte 300 balles. Ou, ah, la porte là qui ferme un peu moins rapidement qu'avant, ça c'est une porte sur un caisson à 1700 balles. Ah! Et tu fais, ouais. Et en fait, non, t'as pas envie de savoir tout ça. Et c'est acheter jamais.
Acheter, c'est compliqué, ouais. La chose qui me console beaucoup actuellement dans l'appartement qu'on a, mais que ce sera plus le cas si on prend une maison par exemple, parce que les maisons changent de prix plus lentement, je pense. Mais là, on est dans des circonstances où le bien gagne en valeur très rapidement. Et du coup, enfin, on fait des travaux et tout, ça coûte très cher et ça me fait saigner les yeux. Mais je vois aussi que la valeur augmente beaucoup en parallèle. Et c'est ce qui on va dire, me réconforte un petit peu. C'est la lumière au bout du tunnel, tu vois.
C'est le cas chez nous aussi, mais j'essaye de ne pas m'en souvenir
Ouais.
parce que j'ai peur quelque part de ne pas me laisser l'occasion de profiter de tous ces travaux.
Je comprends très bien.
Où il y a un côté.
Ouais,
Enfin,
ouais.
j'ai justement pas envie de. C'est marrant quand tu renverses un truc et de se dire. Voilà, c'est la première tâche sur un truc qui est le plus gros achat que tu aies jamais fait. Typiquement, voilà, quand tu rayes un truc dans la cuisine, c'est le plus gros chèque que j'ai jamais signé de ma vie. Donc, évidemment, tu peux pas t'empêcher de le faire à la première, mais quand tu fais la deuxième, tu dis, enfin, c'est bon, quoi, ça y est, c'est fait. Et oui, enfin, quelque part, il faut savoir oublier la valeur monétaire de la chose. En même temps, c'est un énorme privilège. De pouvoir avoir acheté et de pouvoir enfin d'avoir les moyens de rembourser le
Bien sûr.
crédit et de faire des travaux, mais je crois qu'il faut découpler un peu ça et puis aussi en jaillir quoi, enfin être capable de tout simplement profiter de, enfin c'est bien d'avoir un privilège, mais quelque part faut, enfin c'est bien d'en être conscient quoi, mais enfin c'est quand tu l'as, faut en profiter quoi aussi un peu
Il
quand
faut
même.
jouir sans scrupule de ce dont on peut jouir légitimement.
Tu vois, c'est là qu'on voit que tu as une culture classique plus grande que la mienne.
C'est Christine de Suède.
Ouais, bah voilà. Et du coup, après cette introduction fort décousue, je vais me permettre de préfacer le sujet principal pour une fois. Nous allons parler du conflit ukrainien et des rapports entre le conflit ukrainien et les technologies, notamment les technologies de l'information. Et donc, de manière extraordinairement exceptionnel, cher auditeur, chère auditrice. Je te permets de mettre pause maintenant, d'arrêter d'écouter cet épisode, de marquer comme lu cet épisode dans ton podcatcher favori, et de ne nous remettre dans tes oreilles que dans 15 jours, si tu n'as pas envie d'entendre parler tes deux podcasteurs favoris du conflit ukrainien, parce que tu en as ras-le-bol d'entendre parler de la guerre et que tu as envie d'entendre parler de choses positives.
Et on te comprend, on te
Mais
comprend.
s'il reste encore une petite once de masochisme dans toi, tu vas entendre le magnifique générique qu'on a payé beaucoup trop cher pour lancer ce sujet principal. Et on se revoit dans 15 jours. Et maintenant, c'est le Anthony et le Arnaud d'il y a 3 quarts d'heure qui vont te parler pendant une demi-heure de l'Ukraine. Je me faisais la réflexion que toi et moi, enfants du milieu à la fin des années 80, on a quand même grandi avec la menace terroriste, le ETA, la filière algérienne, les attentats de 95, le 11 septembre 2001. On a vécu avec un nombre incalculable de crises économiques, notamment toi et moi, on est rentrés sur le marché du travail. Moi, très littéralement, hein, je suis allé travailler dans le bâtiment où il y avait la banque Lehman Brothers, et quand je suis arrivé, Lehman Brothers descendait, enfin les salariés descendaient leur carton. Donc on est rentré sur le marché du travail en pleine crise économique, on a eu le droit à une pandémie, et maintenant à la guerre aux frontières de l'Europe. On joue la vie en mode difficile quand même. Alors, il y a des gens qui la vivent en mode super ultra hard, mais on n'a quand même pas choisi le mode le plus facile, hein.
Ouais. C'est curieux, tu vois. C'est vrai qu'il y a tout ça. Et d'un autre côté, mon quotidien, j'ai l'impression qu'il ne change pas plus que ça. Et du coup, je me sens vaguement coupable de ne pas souffrir. Je sais quand même qu'il y a une influence sur le bien-être mental, sur ceci, cela. Bon, j'en suis conscient à peu près. Mais malgré tout le tintouin, tout le tatamarre et tout le chaos, tu vois, j'ai fait mes courses sur Cajou tout à l'heure et j'ai reçu mes 10 bouteilles d'Asti par livreur et c'était chouette, quoi. Donc, non, c'est un monde bizarre, un petit peu.
C'est tellement si proche et tellement si loin à la fois.
C'est ça.
Mais c'est enfin, c'est à la fois la beauté et le malheur du web, c'est que, et particulièrement des réseaux sociaux, c'est que ça. Je crois pas qu'on se soit rendu compte à quel point ça a changé le monde, mais ça a complètement cassé notre rapport à l'espace et au temps.
Ouais.
Et oui, enfin, c'est ça, c'est à la fois extraordinairement loin, parce qu'en pratique, l'Ukraine, c'est l'autre bout du monde presque, alors que c'est qu'à 2h30 d'avion de Paris, mais. C'est quand même très loin.
Crois que la banlieue est moins longue que ça,
Et en même
effectivement.
temps. Oui, quelque part, oui. Et en même temps, c'est extraordinairement proche parce qu'on a toutes les informations en temps réel et on a toutes les images en temps réel. Ça a un côté très virtuel, mais en même temps, c'est très réel. Enfin, l'Allemagne qui met 100 milliards d'euros pour sa défense. L'Allemagne, quoi, qui va mettre de l'argent dans une armée. La Suisse qui a abandonné sa neutralité, tu vois. Incroyable. L'Union européenne elle-même, qui devient une espèce d'État souverain supranational qui est capable d'envoyer des armes. Et puis t'as Lavrov qui nous menace d'une guerre nucléaire totale. C'est très très réel, mais c'est tellement loin. Enfin, ça veut dire quoi 100 milliards? C'est quoi l'idée de de neutralité de la Suisse? C'est quoi l'Union européenne? Enfin, c'est bien, ils nous menacent, mais et après? Et je n'arrive pas à voir, et je ne suis pas certain que ce soit uniquement à cause de mon métier, je n'arrive pas à voir ce conflit autrement que sous l'angle numérique. Je veux dire, c'est un conflit qui est entièrement reçu, entièrement mené d'ailleurs, et entièrement reçu par l'intermédiaire. Du web et des réseaux sociaux, et qui est d'abord un conflit de l'information avant d'être un conflit
Très clairement,
armé
ouais.
sur le terrain.
Ouais. Et ça confère du coup au conflit une part d'irréalité totale, quoi. C'est que t'as vraiment l'impression que ce qui se passe est virtuel, en fait. Je me demande comment était la vie, tu vois, des personnes qui vivaient à Paris pendant l'occupation et qui avaient quand même un certain niveau d'aisance financière, tout ça, qui permettait de vivre à peu près normalement. Mais je me demande si c'est le même type de vie qu'on a actuellement, tu vois, avec une guerre quasiment à nos portes. Je dis quasiment parce que, bon... La distance, même si à vol d'oiseau, elle est pas très, elle est assez élevée, comme tu disais, par transport, c'est pas très loin, quoi. Et ouais, enfin, il y avait déjà cet aspect irréel pendant le Covid, où on nous parlait de choses terribles en Chine, tout ça, que les usines fermaient, tout ça. Enfin, on a mis du temps quand même à absorber l'onde de choc au niveau des fournitures électroniques, notamment. Et même là. C'est pas quelque chose de dramatiquement atroce. Parce que, évidemment, il y a des ordinateurs qu'on peut acheter plus tard, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est genre un mois d'attente, ça va, quoi. Et tu peux juste mettre ça sur le dos d'une forte demande. Et il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Tout ça, c'est virtuel, encore une fois. Donc, la vraie. Enfin, la réalité perd son caractère de réalité, quoi. Et ce qui. Dans le processus, ce qui m'ennuie un petit peu. C'est que j'ai peur que ça contamine la réalité locale. Déjà, on a cette impression que les choses qui arrivent aux voisins ne sont pas les choses qui nous arrivent à nous. Ça, c'est humain, tu vois. Donc, on sera toujours plus concerné par ce qui arrive en Ukraine que par ce qui arrive au Sénégal ou au Mali, tu vois. Mais là, l'échelle se rapproche encore plus. Et plus ça va, plus j'ai peur que ce soit le cas pour les années à venir.
J'ai du mal à écrire en ce moment sur mon blog et j'ai commencé à écrire un truc sur. Cette semaine, je suis complètement en rupteur, non seulement parce que, bah, évidemment, il y a le travail chez MacG et évidemment la couverture des aspects numériques du conflit. Il y a aussi mes engagements politiques et en ce moment, c'est quand même il y a quand même une campagne présidentielle et il y aura des législatives ensuite. Et en plus de ça, Il y a mes engagements associatifs et cette semaine, j'ai donné un cours à distance de journalisme au Burkina Faso, donc depuis Lyon, pour mes étudiants au Burkina, qui est un cours sur le journalisme web et sur notamment beaucoup la question des réseaux sociaux et de l'information et de la désinformation. Et je leur parlais de la loi du kilomètre, qui est justement ce que tu disais, quoi. Le Sénégal, par exemple, c'est loin. Mmh. Et pour eux, la France, c'est loin, quoi. Il y a un côté, les gilets jaunes, ils s'en fichent, quoi. Et nous, de la même manière, le coup d'État au Burkina, on en a entendu parler, mais voilà, quoi, c'est pas allé beaucoup plus loin. Et ce que je trouve fascinant, c'est que les réseaux sociaux sont très paradoxaux là-dessus. Ça abolit la loi du kilomètre, parce que je suis assez persuadé que si la Russie va perdre la guerre, parce que promis, à la fin, c'est la Russie qui perdra. Ça prendra peut-être 10 ans, hein, mais la Russie a perdu. Si la Russie a perdu la guerre, c'est en grande partie parce que il y a une organisation médiatique qui passe notamment par les réseaux sociaux. Enfin, faut voir Reddit en ce moment, quoi. La page d'accueil de Reddit, c'est le béaba de la propagande, quoi. C'est les Ukrainiens qui font ça magnifiquement bien,
très très doués,
qui ont plié l'opinion. Et tout ce que tu vois, c'est de la propagande anti-russe. C'est magique. Et Twitter, c'est pareil. Et je me demande, par exemple, la différence avec ce qui s'est passé en Crimée en 2014. Ou est-ce que ça a provoqué moins de protestations et finalement la Russie a gagné parce que Twitter, Reddit, d'autres réseaux sociaux ne jouent pas le même rôle, sont moins développés, parce que la viralité, l'aspect, le même, quoi, ne sont pas développés de la même manière. Et donc, quelque part, ça reste sous le seuil de l'audition. Le signal... les Russes sont en Crimée, ne réussit pas à passer par-dessus le bruit à l'époque. Et je me demande à quel point aujourd'hui, justement, c'est différent parce que ce signal réussit à passer au-dessus du bruit et finalement, le bruit ne parle plus que de ça. Et donc, on abolit la loi du kilomètre et soudainement, l'Ukraine, c'est chez nous, tout le monde met son petit drapeau ukrainien à côté de son pseudo, tout le monde participe à des manifs, tout le monde s'associe à tel ou tel mouvement de soutien des Ukrainiens, etc., etc., jusqu'à... on oublie les grands principes de la démocratie, on bloque des médias sans même avoir de base légale et sans même se demander ce que ça va donner, etc., etc., etc. Et en même temps, et c'est, je retombe sur ce que tu disais avant, ça a pris longtemps, mais j'y reviens, mais en même temps, ça casse complètement ton rapport au local. Saccage Paris, bordel. Les abrutis qui pensent que trois plots en béton pour faire des pistes cyclables, c'est la fin de Paris. Et on a les mêmes à Lyon avec la guillotière en colère, hein, qui prétend que la place du pont, c'est une zone de non-droit. Et tu fais, mais mince. Est-ce que ça rapproche... Est-ce qu'en rapprochant le bout du monde, ça nous sépare du bout de la rue?
Je reviens sur ce que tu disais sur le... la dextérité, la maestria de l'Ukraine sur les réseaux, effectivement. Et non seulement d'eux, mais aussi l'habileté qui consiste à avoir rallié l'opinion publique et du coup créer une sorte de vague de soutien et de qui génère elle-même d'autres propagandes à la suite. De sorte que l'effort initial, en fait, est peut-être moindre que la vague qui suit. Évidemment, je pense personnellement, j'ai l'impression en tout cas que l'Ukraine se fait effectivement attaquer par la Russie sans avoir rien demandé à personne.
Oui, il n'y a pas de doute. Oui,
voilà. Ouais. Ce qui m'ennuie, c'est le fait d'avoir raison pour avec les mauvaises méthodes. Une des choses qui m'ennuie là-dedans, notamment, c'est l'usage évidemment des fake news à outrance. Et c'est, il y a même certaines vidéos qui ont été prises de jeux vidéo, des trucs comme ça, des trucs anciens de 2014 qui sont retrouvés. Identifié comme des choses actuelles et tout, bon, voilà.
L'exemple parfait, c'est la photo qui a beaucoup tourné du président Zelensky en treillis et en gilet pare-balles, en disant, regardez, il est au front, il est à côté de ses soldats, et qui est en fait une photo qui remonte à avril 2021.
Par exemple. c'est un peu troublant pour moi. Enfin, évidemment que l'Ukraine a raison de se défendre, et je pense qu'ils ont même une... Enfin, c'est tout à leur crédit d'avoir utilisé, tu vois, en mode David contre Goliath, quoi, d'avoir utilisé cette espèce d'avoir cette intelligence d'utiliser les réseaux sociaux pour amplifier et mettre leur position en public, de sorte que, enfin, sans ça, personne ne serait derrière eux, quoi. Tout le monde s'en foutrait. Mais de l'autre côté, voilà, la question des méthodes me pose vraiment problème. Et Je pense que ça crée un dangereux précédent parce que sur la réaction émotionnelle qui suit, beaucoup de décisions sont prises très rapidement et créent là aussi un précédent, quoi. Je pense notamment à ce que tu disais sur l'Europe, ce que tu disais sur les différentes sanctions. Enfin, il suffit. En fait, ce que ça veut dire derrière, c'est que quand il y a un camp du bien qui est identifié, ce camp du bien est celui du bien absolu. Et du coup, la nuance n'a plus vraiment de place non plus. Et les réactions fortes et très puissantes et surtout très rapides sont justifiées, quasiment toutes. Parce que la fin justifie les moyens d'une certaine manière.
Une décision qui m'effraie, c'est la décision prise par Ursula von der Leyen de faire interdire Russia Today et Sputnik. Je suis pas un ami de Russia Today et Sputnik. Ça fait des années que je me moque des journalistes que je peux connaître qui sont allés travailler pour Russia Today et qui me jurent depuis des années le cœur sur la main que non, ils travaillent pas pour le Kremlin. On a la preuve aujourd'hui que depuis des années, des années, des années, ils n'ont fait que travailler pour Vladimir Poutine. Ça fait des années et des années que j'ai interdit les liens Russia Today et Sputnik sur les forums de ma génération, ce qui m'a d'ailleurs valu toutes sortes d'insultes et de menaces. C'est pas des mots que j'aime prononcer, mais enfin bon, je vous l'avais bien dit, quoi. Donc je peux pas être soupçonné d'un grand amour pour les médias d'État russes et de manière générale pour le gouvernement de Vladimir Poutine. En même temps, je crois que c'est une erreur d'avoir banni Russia Today et Sputnik sans la moindre base légale et en disant, ah bah alors comme on n'a pas de base légale pour le faire, on va le dire et puis on va laisser Facebook, Twitter, Apple, Google, YouTube le faire à notre place, les acteurs privés. Et donc on va dire, bah, puisque la liberté d'expression, la liberté de la presse, ce sont des choses qui s'appliquent uniquement aux États et qu'elles ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont maîtresses dans leur domaine, eh bah, on va laisser les entreprises faire le sale boulot. Qu'est-ce qui se passe quand demain la Chine va demander la même chose, mais contre nos médias à nous? Quel argument on va pouvoir, par quelle contorsion de l'esprit et par quelle compromission morale on va pouvoir aller dire aux autorités chinoises, ah ben non, là vraiment vous poussez le bouchon un peu trop loin, les gamins. On vient d'utiliser contre une dictature les armes de la dictature. Je trouve ça un tantinet effrayant. Un tantinet.
Un tout petit peu, oui. Et pareil, enfin, c'est pour moi, il y a vraiment des parallèles avec le Covid où la gestion médiatique et politique de la crise ont été encore là aussi, enfin, très rapides, ont beaucoup changé et ont quitte à changer de position, faire des allers-retours très rapidement sur des points qui paraissaient acquis, tout ça. Et ça crée déjà des précédents qui étaient inquiétants. Enfin, le pass vaccinal, quoi. Il n'y a pas besoin trop d'en parler, je pense, mais bon, voilà. C'est un précédent, quoi. Là, on est sur un niveau supranational, quoi, qui va même remplacer l'autorité d'un pays donné pour une action contre un autre pays, quoi. Ça m'interpelle pas mal. Je pense que. Enfin, déjà, sur l'usage de la technologie pour la propagande, là où on pouvait imaginer à l'avant qu'il y ait une visibilité augmentée, donc une sorte de croissance du message d'audience plus large comme ça. En fait, on arrive plus sur une forme de cancer que de croissance.
Ah, c'est pas mal ça, cette image du cancer. C'est métastatique.
Métaverse statique?
Non, c'est vraiment métastatique. Il y a comme ça vraiment tu vois des floraisons de discours
Ouais.
Et ça fait ces petites cellules et dans le meilleur des cas c'est de la croissance, ce sont des cellules viables. Dans le pire des cas ce sont des cellules cancéreuses. C'est vraiment une bonne
Merci
image du
beaucoup.
cancer
Merci. J'ai
pour ça.
trouvé hier soir, j'étais content. Et l'autre phénomène qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est cette technique d'ombre chinoise, quoi. C'est inonder Internet de titres qui vont tous dans le même sens, ça suffit pas à rendre les choses réelles et encore moins vraies.
Non, non, ça se
Ça se
saurait.
saurait. Et donc, toutes les sanctions, les multiplications des sanctions et d'efforts faits contre la Russie donnaient l'impression que la Russie était prise à la gorge, ce qui est un peu le vrai, ce qui est un peu le cas. mais qu'en même temps, enfin, la guerre était toujours en cours et qu'elle allait probablement se continuer pendant plusieurs années, quoi, et que c'était ça la réalité.
C'est ce que je trouve un peu compliqué quand j'essaye, enfin, j'écris sur le sujet et j'essaye d'expliquer au lecteur qu'est-ce que c'est que cette guerre complètement hybride. Elle le sera d'autant plus quand les opérations de guérilla vont commencer, où là on aura une vraie guerre hybride, guerre conventionnelle, guerre de guérilla plus cyberguerre. Donc on sera parfaitement dans la définition, mais la cyberguerre, pour le moment, c'est surtout une cyberguerre, enfin c'est une guerre d'information. Il y a très peu d'actions contre les infrastructures d'Internet, même si on a vu des opérations de coupure, notamment à la frontière au moment de l'invasion. Il y a quelques opérations de déni de service, mais enfin c'est pas. De toute manière, il y en a tous les jours, donc c'est pas très important pour le moment. On a vu quelques virus, quelques wipers, quelques trucs, mais enfin, bon, pour le moment, ça reste des trucs super limités. Surtout, ça se limite au territoire ukrainien. Et on n'a pas encore vu la Russie, ou l'Ukraine d'ailleurs, essayer d'attaquer un pays tiers, notamment un pays qui, par exemple, comme la Pologne, fournirait enfin, servirait de passerelle pour fournir des armes ou accueillerait des réfugiés. Et donc, quelque part, cette cyberguerre, elle semble un peu. Enfin, on en parle beaucoup, mais elle semble un peu ténue.
Ouais.
Et quelque part, elle cache la réalité des opérations bien conventionnelles sur le terrain, avec les Russes qui s'embourbent, avec des Russes qui balancent des armes qui sont interdites par tous les traités de la planète, près d'hôpitaux, près d'écoles, en violation de tous les traités de la planète. On peut véritablement parler de crimes de guerre, il n'y a juste pas de doute. Et tu te dis, oui, d'accord, c'est bien, on fait les kékés avec nos petits emojis drapeaux ukrainiens sur Twitter, mais enfin, en attendant, il y a une vraie guerre avec de vrais civils qui sont vraiment tués par des gamins de 18 ans qu'on a envoyés sur le front contre leur volonté. Ouais.
C'est ça, c'est des écrans de fumée. Enfin, je reprends le titre de Netflix sur la série très mauvaise qu'ils ont faite, mais c'est ça, c'est ce qui est mis en exergue et ce qui est stimulé sont des choses assez basses et assez peu réelles au final, qui ne sont pas très représentatives de la réalité. Et je veux bien que ces deux sœurs qui aient traversé la frontière pour rejoindre leur père en Pologne soient traitées comme des héroïnes et tout, mais. C'est la réalité, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est pas en tout cas, moi, c'est pas juste ça. On peut pas dire ça.
Non, c'est ça. J'ai peur de toutes ces petites vidéos, les chats dans les
Oh.
bunkers, les cyclistes qui vont quand même faire leur tour de vélo alors qu'il y a les chars dans la rue. Elles marchent, les images. Elles sont dangereuses, les images.
Ouais.
Et c'est des choses que j'explique depuis des années aux étudiants en niveau master, que ce soit ici à Lyon ou à Bobo au Burkina. Ce sont des choses qu'on explique aux gamins de 4e et de 3e quand on leur fait l'éducation média pendant la semaine de la presse. Jusque-là, c'était assez théorique, même si on avait 2-3 exemples. Là, cette année, je te promets que le cours, il va être très pratique et il va être très réel.
Oui.
Et malheureusement, notamment pour les gamins au collège, j'ai peur que ce soit aussi très angoissant, parce que on les voit les conséquences de la manière dont les réseaux sociaux ont fondamentalement altéré notre rapport à l'information. Et on voit le revers de la médaille de cet espoir qu'on avait que, enfin, par ce mot que j'adore, désintermédiarisation, on n'a plus de point de vue monolithique, on n'a plus ce filtre des journalistes, et je le dis de manière d'autant plus assurée que je suis moi-même journaliste, donc je sais à quel point mon travail a une puissance, et une puissance à la fois créatrice mais aussi destructrice, hein, je peux faire taire des idées. Et on avait cet espoir vraiment d'une espèce de vision kaléidoscopique, quoi, qu'on ait tous les points de vue accessibles et qu'on soit capable de faire surnager les meilleurs points de vue. Ben on voit le revers de la pièce, qui est que quand il y a beaucoup de bruit, hein, ça devient difficile de voir le signal, et ça devient difficile de tirer le vrai du faux, et ça devient difficile de faire la part des choses entre la petite vidéo marrante et la petite vidéo marrante qui est faite à des fins de propagande. Et je trouve tout cela fort compliqué, je trouve tout cela fort difficile à expliquer aux gens, et je suis pas certain que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer et comprennent bien que ces questions fondamentales qui sont des questions de rapport à l'information et de rapport aux technologies, c'est aussi un enjeu de cette guerre.
Mmh.
Et que la catastrophe humanitaire, les crimes de guerre commis par les Russes, tout ça c'est évident et tout ça c'est évidemment suprêmement important. Mais enfin, si on n'est pas capable de se rendre compte de ce qui est en train de se passer sur le terrain numérique et sur le terrain informationnel, on va peut-être gagner la bataille pour Kiev, et on aura perdu la guerre.
Pour le monde. C'est ça qui est plus angoissant.